Il y a dans cet évangile une phrase qui peut nous surprendre parce que on nous dit que à cause de leur joie, les disciples n'osaient pas encore croire. Cette joie les empêchait de croire que Jésus était vraiment ressuscité. C'est comme quand nous disons parfois « c'est trop beau pour être vrai ». Et aujourd'hui, nous pouvons prendre trois petits points, j'espère qu'ils seront petits. Le premier, c'est voir comment les émotions peuvent agir en nous. Le deuxième, c'est comment fait Jésus pour nous ramener petit à petit à la vérité. Et puis le troisième, c'est l'enjeu de cette vérité de la résurrection. Commençons par ces émotions qui risquent de nous prendre. Chacun de nous a vécu ces émotions. Il y a l'émotion de quand on tombe amoureux. Voilà. Le monde est transformé d'un coup, parce que j'ai rencontré une fille, je parle de manière hypothétique, ou un garçon qui vient combler les vides de mon cœur et toute la réalité s'illumine. Je suis comme happé par la force de la passion amoureuse. Mais je peux être happé aussi par la joie, comme les disciples aujourd'hui. Ils étaient tellement joyeux qu'ils disaient non, c'est pas possible. Parfois, c'est la tristesse. On commence à bouder et on ne veut plus entendre raison. Ça nous arrive. Ça peut nous arriver. Voilà. C'est comme si on s'entêtait à rester triste. Mon malheur est tellement grand et toutes les paroles de consolation, je dis non, mais au fond, tu ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qui se passe avec la tristesse, la joie, l'amour, la peur, la colère, c'est qu'il devient une chose absolue. Quand je suis en colère, ne vous approchez pas. N'essayez pas de me raisonner. Si je suis en colère, je vais vouloir rester en colère. Et si c'est une discussion, comment ça arrive souvent, je vais discuter non pas pour arriver à déceler la vérité, mais si je suis en colère, je vais m'imposer à l'autre, je vais gagner les discussions, je vais avoir raison. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ne discute pas pour avoir raison? On est comme ça. Mais c'est bien de reconnaître que ça peut nous fouvoyer, nous dévier. Et Jésus dit à ses disciples, il va les corriger, cet penchant mauvais. Il dit, c'est quoi? Pourquoi vous êtes bouleversés? Quelles sont ces pensées qui montent vers vous? Et ces pensées que vous avez dans les cœurs. Voyez, regardez, un esprit n'a pas de chair et des os comme vous voyez que j'en ai. Et puis, il arrive à se faire toucher et à manger avec eux. C'est-à-dire, le Seigneur ne fait pas les boulots à la place des autres. Il ne fait pas un grand miracle pour convaincre les disciples, il n'essaye pas de nous accabler à force de preuves. Il nous dit les preuves que vous avez sont suffisantes à condition que vous regardiez. Nous, parfois, on se dit, est-ce qu'il y a un créateur du monde? Est-ce que nous sommes seuls ou c'est l'évolution qui a tout fait? Mais il suffit de regarder, de sortir dans la place, regarder les arbres, le soleil, les sourires des enfants, et se dire, est-ce que ça s'est fait tout seul? Quand même, un peu d'intelligence. Mais Jésus ne nous accable pas avec sa résurrection. Il avec beaucoup de patience, il fait preuve de pédagogie et il invite les disciples, et aujourd'hui il nous invite chacun de nous, à mettre en activité notre cerveau, notre intelligence. Regarder, chercher les preuves, faire comme la police scientifique. On aime bien les films où les détectives arrivent à résoudre les problèmes. Eh bien, nous devons, chacun de nous, essayer de comprendre, d'accéder aux preuves que le Seigneur nous donne, de comprendre pourquoi le monde, il y a 2000 ans, a changé complètement et ils se sont mis à croire qu'il y avait un type qui était ressuscité, qui était revenu de la mort. Pourquoi le monde a tellement été bouleversé? Quelle joie, quel événement est arrivé pour que une poignée d'hommes et de femmes arrive à convaincre les autres que la vie était faite pour toujours, que la mort n'était pas la destinée de l'homme? C'était trop beau pour être vrai. Eh bien, Jésus, en plus, et ça, il faut que nous prions, frères et sœurs, il nous aide, il ouvre l'intelligence de ses enfants pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais attention, comprendre l'Écriture, ce n'est pas simplement interpréter un texte. Il ne suffit pas d'avoir les bacs pour comprendre les Écritures. Comprendre les Écritures, la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que les Écritures sont l'expression d'un amour, de l'amour de Dieu. L'Écriture nous transmet la pensée du Père, les sentiments du Père. L'Écriture vient nous dire que Dieu nous aime, et qu'il a fait tout ce qu'il a voulu au commencement du monde, par amour, pas par besoin, que nous sommes là sur terre parce qu'il nous aime, et que Jésus est venu dans le monde parce qu'il ne veut pas nous perdre. Voilà, demandons au Seigneur d'ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures, comme il a permis aussi aux disciples d'Emmaüs. Il s'est fait reconnaître, disent les disciples, par la fraction du pain. Que nous apprenions, voilà, que dans ce monde, les choses ne sont pas évidentes. Les choses nous demandent un peu d'intelligence et la volonté de connaître la vérité. Et nous venons nous réunir et nous apprenons à reconnaître la présence du Seigneur dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie. Le dernier point, c'est important, c'est très important, et c'est, disons, les fruits que nous devrions tirer, recueillir dans ce temps pascal. C'est l'enjeu. C'est quoi l'enjeu de la résurrection du Seigneur, de cette méthode qu'il applique? La première, c'est croire qu'il est vivant, que nous ne suivons pas un mec bien qui était très intelligent et très bienveillant, mais qui a échoué. Dans la première lecture, nous avons entendu qu'on appelle Jésus le prince de la vie. En grec, c'est archeios zoé, c'est-à-dire pas simplement les princes, mais les principes, la source de la vie. Pierre reproche aux Juifs qu'ils ont tué les saints, les fils de Dieu, mais qu'ils ont essayé de tuer aussi celui qui est la source de la vie. La vie que nous avons, nous, la vie qui fait fleurir les fleurs en ces printemps qui tardent à venir, la vie des écureuils et des insectes, la vie est originée par Jésus. Jésus est le Seigneur. Voilà, il dit à la fin, qu'il explique aux disciples que tout cela devait arriver pour le pardon des péchés et qu'il devait être annoncé pour la conversion. Mais la conversion à laquelle nous devons accéder, ce n'est pas simplement, voilà, que je vais arrêter de voler peut-être de boire, ce qui ne serait pas mal. La conversion, c'est le changement de la perception, de l'idée que je me fais de moi-même, de notre monde, de Dieu, des relations aux autres. Nous sommes, comme dit saint Paul, nous sommes appelés à ce que notre corps regarde. Écoutez ces paroles qui sont impressionnantes. Il dit, notre corps corruptible va être revêtu d'incorruptibilité. Notre corps mortel d'immortalité. C'est-à-dire, frères et sœurs, peut-être que nous ne pourrons pas nous revoir ici dans 100 ans, parce que la plupart d'entre nous sera mort. Mais nous allons nous revoir dans 100 ans, dans les temps de Dieu. Nous allons nous réunir autrement. Nous sommes appelés à une vie en plénitude. Et notre conversion consiste à redimensionner l'idée que nous nous faisons des choses. D'abord, croire que nous sommes faits pour une vie éternelle. Croire que Dieu nous aime et qu'il ne nous lâche pas, qu'il ne nous abandonne pas. Croire donc que les choses de ce monde passent. Que ce n'est pas en essayant d'avoir plus et plus, ce n'est pas par la possession que je vais vivre. Croire que les joies de ce monde passent et les ennuis de ce monde passent aussi. Les joies et les tristesses de ce monde, comme tout ce qui est dans ce monde, passent. Et alors je ne dois pas me laisser prendre la tête et le cœur comme si tous les jours je vivais la fin du monde. La conversion, c'est ouvrir notre cœur, demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour interpréter ce qui nous arrive, pour pouvoir vivre les événements avec paix. Et c'est la parole que le Seigneur donne à ses disciples dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Luc. Que la paix soit avec vous.